Jean Vilain vous présente ses nouvelles vilaines. Nouvelle vilaine. Histoire. Eh bien, bonjour. Aujourd'hui, ça va être une émission un petit peu particulière. Il y a beaucoup de gens qui disent du mal de Facebook. Or, moi, Facebook, j'y vais. Et figurez-vous que j'y ai fait de très belles rencontres. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelqu'un qui, justement, j'ai rencontré sur Facebook. C'est quelqu'un qui s'appelle Stéphane, qui écrit des textes qui, moi, m'ont bouleversé pour certains d'entre eux, amusé pour d'autres. Et voilà, Stéphane est un personnage un petit peu particulier, quelqu'un qui n'a pas eu la vie de tout le monde, mais on va vous raconter ça. Bonjour Stéphane.
Bonjour Jean.
Oui, alors je ne sais pas si ce que je viens de te dire te convient.
J'ai entendu un mot sur deux, c'est le problème.
D'accord. Non, mais je disais en gros qu'on s'est rencontrés sur Facebook.
Ouais.
Et que j'ai été, accroché par des textes que tu écris et que tu n'es pas, un personnage commun, banal. T'es quelqu'un qui a eu une vie un petit peu particulière, on va dire. Moi, ce qui me frappe, et ne le prends pas mal, c'est que tu es quelqu'un qui au départ n'a pas vraiment d'instruction, mais qui écrit pour moi d'une façon formidable, parce que tu as une façon de raconter ta vie, tes expériences, avec énormément de culture en fait. Tu n'as peut-être pas d'orthographe, mais tu écris vachement bien. Voilà. T'as quelque chose à dire là-dessus ?
Quand tu vas sur le chantier à l'âge de 8 ans pour passer les outils et pour pouvoir, à 12, montrer comment on pose un couvre-joint à un stagiaire 18, c'est que t'apprends la culture différemment qu'avec un tableau noir. T'apprends à l'âge de 10 ans, tu sais pourquoi certains façadiers restent sur l'échafaudage qu'on a en plein mois d'août et pourquoi nous on descend dans la cave du chantier pour manger. Des choses comme ça, donc la culture tu la partages en la vivant et pas devant un tableau noir qui bloque tous les chakras. Je sais pas comment on dit ça, donc voilà quoi. Après quand on t'enferme avec tes lacunes, et la seule liberté que tu as, c'est de leur mettre ces lacunes dans le cul, quoi, en gros. Donc de bosser, d'essayer de rattraper ce retard, ne serait-ce que pour éviter d'avoir des réflexions justement sur ces fautes d'orthographe, sur ces choses-là, et qui tue le... Enfin, moi, je préfère m'attacher au sens du mot qu'au nombre de lettres qui va dedans, quoi, voilà, quoi. Je sais pas si tu me comprends bien.
Si, non. Comprendre, moi. Si, non, mais justement, ce qui m'étonne, c'est que tu manies vachement bien la langue, quoi. Tu écris... Moi, si je connaissais pas ton histoire, ou si tu la racontais pas, si tu te contentais de raconter des histoires... personne ne pourrait supposer la vie que tu as eue.
Mais le problème, c'est qu'on est très nombreux comme ça. Le seul truc, c'est qu'après, c'est une question de dans quel état on est arrivé, quoi. Il y a, sur la route, il y en a plein qui se sont pendus, il y en a plein qui se retrouvent en psychiatrie, parce que surtout qu'aujourd'hui, on abuse de ça. Il y en a qui sont flingués simplement, ils sont retournés chez leur mère, mais assis sur un fauteuil, ils bougent plus parce qu'il y a Servier qui coule dans leurs veines. Des choses comme ça. Et après, ça dépend, je veux dire, il faut assumer... assumer, c'est même pas un mot, parce que ça, c'est encore une insulte pour ceux qui sont tombés sur le carreau, quoi. Donc, c'est pas une question d'assumer, c'est une question d'avoir de la chance dans ta niaque, c'est-à-dire que, en gros, la balle qu'on te tire dessus, elle passe à côté de l'oreille et pas dans la tête. Voilà. Je sais pas comment expliquer ça. Pour moi, je suis pas meilleur qu'un autre. J'ai simplement la chance d'être en vie, d'avoir encore la niaque. Et puis j'essaye de garder une niaque et de pas la convertir en haine, parce qu'il y a de quoi. Parce qu'il y a vraiment de quoi, là, quand on veut faire passer un pays pour un pays fasciste, quand on, On fait ce qu'on veut. Enfin, je veux dire, ce qu'il y a aujourd'hui, moi, je le vis depuis 20 ans. C'est pour ça que je me rapproche des gens qui souffrent, qui se mettent en colère aujourd'hui, qui perdent leur emploi, qui... Comme là, tu vois, là, ce matin, j'aurais dû être à Florent, j'ai pas pu y aller, mais il y a des gars là qui sont là-bas, derrière les barrières, à faire leur piquet de grève, à se faire insulter par des milices complètement sarkoziennes, hein, mais pas devant les caméras, bien sûr, hein, parce qu'il faut rester propre devant les caméras, mais toute la journée, ils sont insultés par ces gars-là qui les cherchent, qui cherchent la provocation de ces pères de famille qui sont en train de perdre leur boulot. Hein, parce que, bon, pour préciser, je vis à Thionville, donc Thionville, pour donner un ordre d'idée, c'est un petit Neuilly entouré du futur 93, le petit Neuilly, parce qu'il faut garder un peu propre à cause du Luxembourg à côté. Donc, voilà, quoi, tu veux, ces choses-là, tu les vois, tu te rapproches de ces gens, comme de Xavier Mathieu, par exemple, syndicaliste de Conti, des Conti, tous ces gens de Conti qui sont battus, quand tu vois que ces pères de famille finissent sur la voie ferrée ou au bout d'une corde. C'est pas acceptable, tu vois. Donc quand t'as la chance d'avoir ce vécu et d'avoir encore de l'énergie pour en parler, pour leur donner du courage à eux de pas lâcher l'affaire, faut pas le laisser au frigo, quoi.
Oui, oui, non, mais puis justement, tu te bats beaucoup, toi, dans la vie, bien sûr, mais aussi sur Internet pour dénoncer des choses. Et oui, t'as une action, quoi.
Ce que je fais aujourd'hui sur Internet, je le faisais avant sans permis, au volant de ma voiture, à traverser la France aux quatre coins du pays, voir des divers assos, voir ce qu'on faisait ailleurs et tout ça. Parce que j'ai vécu très jeune une injustice qui ne concernait pas que moi, mais tout un groupe de jeunes, hein, parce que j'avais une compagnie de danse hip-hop à l'époque en Bretagne où c'était la cour des miracles, il y avait des gamins de 10 ans et jusqu'à 20 ans, moi j'en avais 23, et on s'est retrouvé à affronter un élu qui c'est cette sorte d'homme de l'ombre, tu vois, qui ont 80 balais aujourd'hui et qui relègue un peu Pasqua au rang des tafioles. Donc c'est pour te donner un ordre d'idée du genre d'individu, toi, 23 ans, tu pèses rien du tout. Donc après, pour un permis de conduire ou pour autre, tu vas faire jusqu'à 5 ans ferme. Tu vas faire ton fils il est né en Bretagne, mais toi t'es à Nanterre, on va te mettre à Valence. Quand ton grand-père on l'enterre dans le sud de l'Ardèche, on va te mettre à Grenoble. Tu vois, des choses comme ça. T'as les mêmes droits que les autres, mais on t'en respecte aucun, quoi. On veut te pousser à la corde. Donc aujourd'hui, cet enfermement m'a permis d'acquérir l'écrit, heureusement, parce qu'avec cet outil-là, t'imagines bien qu'avec un ordinateur, j'aurais le même niveau qu'avant, je ferais pas du coloriage avec, quoi. Donc aujourd'hui, ce que je fais avec Internet, je le faisais avant en bougeant, en vivant dans ma voiture, en traversant la France, jamais sur l'autoroute, toujours en national. Quand tu tombes en panne d'essence, tu vas pas chouraver, tu laisses ton cœur faire et tu tomberas devant une grand-mère qui va dire « Attends, mon mari revient, il va te mettre 20 litres d'essence dans le coffre, il va te donner un sandwich, enfin, voilà, des choses comme ça. » Tu rencontres des gens, il y en a plein. Et les gens, bien, ils se cachent. Hein, donc, c'est pas qu'ils se cachent, c'est qu'ils sont bien quand tu les croises, quoi. Ils vont pas se montrer comme d'autres qui sortent juste parce qu'on leur autorise de montrer leur haine, tu vois. Ou qu'on les montre avec les médias, des choses comme ça. Il y en a plein, des gens bien. Heureusement. Donc aujourd'hui, avec Internet, justement, j'ai croisé des gens comme toi, comme Henri, comme des gens qui sont pleins de valeurs, qui ont a vécu, qui font confiance à la jeunesse. Comme moi, je fais confiance aussi à ces gamins qui ont 17-20 ans aujourd'hui et qu'on accuse de tous les maux. Et qui, franchement, tu vois, les racailles en bas de chez moi, là. Eh ben, sans eux, ben, Evelyne sur son fauteuil roulant tout déglingué, que tout le monde s'en fout, elle pourrait pas aller au bureau de tabac où elle resterait plus d'une heure ou deux dans le froid l'hiver s'ils n'étaient pas là.
Et oui.
Ils peuvent en fumer encore des joints, elle est contente, tu vois ce que je veux dire.
Ouais. Et donc, pourtant, c'est des mômes comme ça qu'on traite de racailles. Quoi. Ici, quoi. Bah, tu l'as laissé entrevoir dans ce que tu viens de dire, mais je crois que c'est. Comme tu dis, t'as été enfermé. Pour te dire en clair, t'as été en zonzon un certain nombre de fois.
Voilà.
Justement, j'aimerais que tu nous en parles un petit peu.
Alors là, c'est pas facile d'en parler parce que c'est très long.
Oui, non, mais juste un petit peu.
Pour vous donner un petit ordre d'idée, c'est que là, il y a la route du Luxembourg juste à côté. Donc il y a les payes sont tombées, donc il y a tout le tabac qu'on va aller acheter en Luxembourg, donc ça roule pas mal et j'ai du mal à t'entendre. Donc voilà. Ben, la prison, c'est la prison, on n'y croit jamais quand on ne fait pas ce qu'il faut pour. Donc quand on est de ma génération, le permis à points il débute au moment où nous on a le permis, c'est-à-dire en 90. À cette époque-là, tout le monde, c'est-à-dire tout le monde, tout ton entourage, tu vois, les gens, que ça soit au boulot, que ça soit dans ton quartier ailleurs et tout, c'est pas possible de faire de la prison pour un apéro et un permis de conduire, des choses comme ça. Et puis toi, ça te tombe sur la gueule. Tu sais, c'est des cumuls. Et puis après, tu rencontres justement les gens, comme je te le disais tout à l'heure, là, pour dire son nom, moi je le dis cash, hein, Paul Ancelin, là-bas en Bretagne. De toute façon, il est en train de crever dans son manoir, mais il y en a d'autres comme lui qui ont poussé depuis. Donc tu rencontres ça, t'as aucune chance. T'as aucune chance. Après la prison, ben, tu rencontres quoi? Des gens normaux. Des gens normaux, des pères de famille qui sont là pour une pension alimentaire, des voleurs de poules comme on dit, mais qui sont plus humains que n'importe qui. Tu rencontres des gens de tous les horizons. Quand t'es à Paris, tu vas rencontrer les sans-papiers qu'on exploite à mort, que ce soit dans les cellules ou avec les matons, tu vois. Donc ça, c'est sans-papiers, on va dire, africains. Après, dans le sud, c'est sans-papiers de l'Est, plus à Grenoble, tu vois, des choses comme ça. Et ces gens-là, ils subissent la haine du maton comme la haine du haineux de tout court, quoi, tu vois. Mais bon, quand tu vois les parents au parloir, quand tu vois les enfants au parloir qui viennent et tout, tu dis, ben, cette civilisation, tu vois, ben, elle devrait prendre un peu d'exemple sur les autres, parce que chez nous, on abandonne les vieux, on fait n'importe quoi avec les gamins, mais eux, ils abandonnent personne. Qui viennent d'Afrique ou de l'Est, ils abandonnent personne, quoi. Donc, on a plus d'exemples à prendre chez gens-là que Guéant, autant que Marine, essaye de culpabiliser, de montrer du doigt. On a plus à apprendre d'eux qu'à leur montrer des choses, quoi. Parce que nous, on ferait mieux d'avoir honte de faire ce qu'on fait.
Ouais.
Donc voilà, la prison, pour résumer, c'est une fabrique qui est de plus en plus privée, une fabrique de haine, une fabrique commerciale. Vous voulez voyager, vous n'avez pas de sous, vous prenez un billet pour la Roumanie, vous allez faire 2 mois là-bas en maison d'arrêt, vous allez comprendre ce que c'est que la Roumanie, vous allez bosser pour Yves Rocher à 150€ du mois, des choses comme ça. Il y a tellement à dire, c'est pas possible de le dire ça comme ça, tu vois.
Bien sûr, non, mais ce que je voulais dire, c'est que, et tu l'as très bien dit au début, c'est qu'en fait, on se rend pas compte, mais on peut se retrouver en prison
voilà,
pour un rien.
Voilà. Il y a largement de quoi, là, aujourd'hui, amener quelqu'un en prison. Ils ont fait ça pour ça, d'ailleurs. Et voilà, quoi. C'est... Il n'y a rien à y gratter, de toute façon. À aucun moment, un adolescent peut... De toute façon, si on avait les chiffres exacts de la récidive, on verrait... Parce que ça aussi, il faut en parler aussi, hein, les services d'insertion et tout, comme ils sont faits aujourd'hui, c'est 7 sur 10 qui replongent à cause d'eux, et non pas à cause de l'individu lui-même. C'est du n'importe quoi, c'est du ni fait ni à faire. Ça change de poste en permanence, ce qui veut dire qu'il n'y a aucun suivi. Il y a... Voilà, c'est... Et puis les jeunes, ils sont là pour voir comment ça marche pour les plus vieux, donc ils n'ont aucune confiance après. Ni aux avocats, ni aux services d'insertion, à personne, aucune confiance. Ce qui veut dire que au jour d'aujourd'hui, que ce soit pour un vol de poule ou pour plier, ou moins pire, je ne sais pas comment dire ça, le délit le délit de fuite, c'est quasiment quelque chose d'obligatoire. Donc ça devient meurtrier. Donc voilà, c'est compliqué, parce que je t'entends mal, j'aimerais bien avoir tes questions mieux dans mon oreille, je pourrais mieux y répondre, c'est compliqué.
Et alors, comment c'est, je reviens à l'écriture, parce que t'en as écrit plein de textes, d'ailleurs moi je vais être très embêté, tu sais, je vais en lire un certain nombre dans des émissions suivantes. Et je suis en fait très très embêté pour choisir, parce que t'en as écrit beaucoup. Mais comment ça t'est venu, cette idée d'écrire?
Déjà, ce qui est fou, c'est que moi, déjà, je me souviens, elle s'appelait Madame Garde, c'était en CE2, j'étais à Bourg-les-Valence. Madame Garde. Il n'y avait aucun moyen de me faire travailler quoi que ce soit à l'école. Et elle, en 6 mois, elle m'a fait monter dans les 5 premiers, rien qu'à cause de comment je maniais la langue. C'est-à-dire qu'au parler, ça allait impeccable, et par contre, j'en branlais pas une à l'écrit, quoi. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant 6 mois, elle m'a fait vraiment bosser, mais pas bosser, tu travailles, non, elle a su me prendre. Et c'était une vieille dame, elle s'appelait Madame Car, je me rappelle. C'était en CE2, donc j'avais quoi, 8 ans, 8, 9 ans. Et du coup, ben, comme la plupart des gens braves, elle est partie à cause d'un cancer, en cours d'année, quoi. Et elle a été remplacée par une petite pute, je les ai mis une vraie, hein. Et pris en grippe de direct, et voilà, l'école s'est arrêtée là. L'école s'est arrêtée là, et ça m'empêchait pas d'y aller pour que mes parents touchent la CAF, comme on dit, jusqu'à 16 ans. C'est-à-dire que j'ai trouvé plein de petites classes qui servent strictement à rien et qui t'amènent jusqu'à l'âge de 16 ans pour préparer un apprentissage que tu avais quasiment fini avant, parce que de toute façon, le bâtiment, il avait plus de secrets pour moi. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a fallu que j'attende le... Si tu veux, je pouvais écrire qu'à des gens qui me connaissaient bien, qui arrivaient à me relire, quoi.
Ouais.
Parce que moi, j'avais du mal à me relire avant. Mais arriver en prison, c'est là où j'ai pris mon temps. Je dis, ce temps-là, ben, je vais rattraper le retard. Les valeurs de la vie, je les ai. Hein, j'ai pas perdu de temps devant le tableau noir pour apprendre les valeurs. Et ben maintenant, j'ai du temps pour apprendre. Parce que le tableau noir n'a pas voulu me cracher. Donc, c'est arrivé comme ça. Mais après, c'est pareil. Il faut rencontrer les bonnes personnes en prison. Moi, je sais que à Valence, par exemple, à Maison d'arrêt de Valence, il y avait une dame, une retraitée des écoles, quoi, et qui avait une façon de donner l'envie aux détenus de l'apprendre, qui était différente des autres. Donc après, c'est pas parce que tu as décidé d'apprendre que tu es obligé d'aller en cours. Il suffit de prendre les cours, les ramener en cellule. Donc voilà, c'est en cellule, quand tu te retrouves à toi tout seul, que tu arrives à bosser un petit peu, puis tu... Comment dire, ça force aussi, je veux dire, il y a les sujets sont importants. Quand les sujets, c'est du vécu, tu peux pas les écrire en 2-3 mots, quoi. T'es obligé de... Voilà, quoi.
Oui, mais quand on lit tes textes, on sent... Enfin, moi, je ressens que tu as du plaisir à écrire.
Il y a beaucoup d'amour et de colère.
Oui.
Par exemple, tu vois, il y a beaucoup de censure sur Facebook, je pense que tu l'as constaté.
Mmh.
Beaucoup de censure sur Facebook, et puis sur, de toute façon, c'est comme je dis toujours, cet outil-là, c'est IBM, hein, c'est à eux, donc la DCRI étant une petite sœur de la CIA, ils font ce qu'ils veulent. Maintenant, ils peuvent pas non plus le faire au grand jour, donc ils le font en te sabotant pas mal de choses. Des fois, les textes que tu lis, des fois, j'ai mis 3-4 fois à les voir effacer et les retaper, donc... C'est tant pis pour eux, parce que au départ c'est assez cool, et puis quand on me les efface, et ben j'insiste, des fois je peux y passer 24 heures sans dormir à retaper le même texte, et quand il sort au final, quand eux se sont fatigués, et ben il est encore plus coléreux, encore plus vrai que le premier, quoi. Parce que je rajoute justement ce que j'ai oublié au départ volontairement, avec la colère. Donc voilà, puis il y a Malilou qui les corrige aussi, faut pas oublier Lilou, attention. Elle rajoute les S au pluriel, tout ça. Voilà.
Non, mais attends, l'orthographe, c'est une chose, mais la façon dont t'écris, dont tu t'exprimes, en est tout à fait une autre, quoi. Honnêtement, t'écris vachement bien, quoi. Et alors, il y a un autre côté que j'aimerais bien, dont tu parles. C'est vrai qu'on a fait amis sur Facebook. En fait, parce que l'année dernière, après les déclarations de notre très cher président à propos des Roms, en fait, moi, j'ai pas mal milité sur le sujet, et c'est un peu comme ça qu'on s'est rencontrés. Oui. Et si j'ai bien compris, t'es un petit peu manouche, toi ?
Mon géniteur est gitan calo. Mais je l'ai jamais connu. Moi, comme j'ai dit à une personne qui milite pour les gaz Florange, là, comme quand il m'a demandé mes origines, je lui ai dit je suis un gitan élevé par un gendarme, ce qui veut dire que pour une fois le voleur d'enfants c'était la gendarme, c'était pas l'autre côté. Donc voilà, mais bon, c'est schématisé un petit peu, c'est plus compliqué que ça en fait. Et dans l'ADN, il y a surtout ce mélange-là entre paysan et gitan, comme on dit, et ça me permet d'avoir les deux, les, pas la double culture, mais de voir les deux côtés, et de voir que si ces gens-là n'arrivent pas à s'entendre, c'est simplement dû au pouvoir, parce que sur le terrain, il y a toutes les raisons de s'entendre. Ouais. Donc voilà, c'est assez compliqué à expliquer, parce que bon, ça touche ma mère, ça touche mon père, qui est logiquement mon beau-père, mais pour moi est mon père. Le nom que je porte, c'est pour ça que le nom que je porte, Vidal, c'est quelque chose qui est sacré pour moi. Parce que justement, ce gendarme, le père à mon père, ce gendarme qui m'a élevé, qui m'a donné ce nom, m'a apporté beaucoup de valeur. Et c'était plein de controverses. Un socialiste gendarme, mais anti-Mitterrand, par exemple, tu vois, des choses comme ça. c'était un grand homme. Il s'est évadé d'Allemagne en vélo. Déjà, rien que ça, c'est quelque chose qui est. Voilà, que ça correspond à mon deuxième grand-père. Et puis voilà, c'était des maquisards donc au départ, donc voilà. Je pense que de toute façon, on est tous un petit peu métissés à quelque part.
Ah bah il y a des chances. Moi, personnellement, tu vois, je peux remonter jusqu'à mon grand-père paternel, et puis après, je sais plus, parce que mon grand-père sort de l'assistance publique, donc il n'y a pas moyen de remonter, quoi. Mais c'est vrai qu'on est tous plus ou moins bâtards de quelque chose. Hein.
Bien sûr. Mais ce qui est fou, c'est que il y a ce. Tu vois, malgré que j'ai grandi dans le béton de Valence, un coup de à bout, un coup à porte, c'est que malgré tout, j'étais toujours fourré, tu sais, avec ma mobilette et tout, on était toujours fourré avec les potes, on était toujours fourré chez les familles du voyage. Comme s'il y avait un aimant. Mmh. Et mon fils qui a 7 ans là maintenant, qui est né le jour de la fête de l'amour quand moi j'étais au mitard. Est en Bretagne, dans une des plus grandes familles manouches là-bas. Et comme je l'ai dit une fois à l'agence PIP de Grenoble, j'ai fait de toute façon, ce qui est certain, c'est que mon fils, vu que je suis pas là pour lui donner ce que moi j'ai appris en souffrant, lui donner pour qu'il évite ce genre de parcours de souffrance, et bien vu que vous me l'interdisez, ben, je sais une chose au moins, c'est que les gens qui sont autour de lui ne le laisseront pas parloir tout seul, ne lui laisseront pas vivre sa détention sans mandat. Enfin bref, il a une vraie famille autour de lui. Et l'amour, c'est primordial. Voilà. Et comme je dis aussi, c'est sa mère, c'est à lui. Donc c'est pour cette raison qu'il n'y a aucune justice, aucun avocat qui n'a se mêlé de ça. Voilà. C'est à nous trois. C'est notre histoire à nous trois. Voilà.
Et alors, une question très très personnelle. Tu me disais que tu étais à Thionville.
Oui.
Et tu vis comment ?
Alors là, je suis dans un studio, ça s'appelle des trucs social, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pour parquer la misère. C'est quelque chose qui est fait pour éviter que tu sois dans le centre-ville, dans la rue ou autre. Moi, j'ai eu des problèmes de santé qui m'ont contraint d'abandonner l'intérim et tout ce que je faisais pour essayer de trouver quelque chose qui aurait largement dû me donner mon appartement à moi et vivre avec mon soleil que je suis venu chercher ici. Ben non, là, je suis en train de pourrir dans un studio tout vraiment pourri, hein. J'ai tous des tas au-dessus de la tête, avec les poubelles qui tombent comme en prison, la gâche électrique qui me réveille comme en prison. Bref, mais je suis pas dehors. Et je paye les APL, enfin tout ça. Mais voilà, je vis comme ça, en attendant que la police vienne me chercher, puisqu'on est reparti pour un tour, là, 6 mois ferme.
Et pourquoi ?
3 rendez-vous ratés pour raison médicale, mais comme quand t'es, comme je dis, je suis venu chercher un soleil ici, puis avant d'avoir ces problèmes de santé, j'étais en intérim, j'avais pas le temps de faire des amis ou quoi que ce soit, donc quand t'as pas de famille et personne autour de toi, ou tu te fous de la côte au rep et tu uses des VSL et compagnie, ou alors tu essaies de trop remonter, mais t'inquiète pas qu'ils sont là pour te taper dans les mollets, quoi. Hein? Donc voilà, de toute façon... Moi, je dépose une plainte contre le parquet de Thionville pour mise en danger de la vie d'autrui. Parce que mon état physique ne me permet pas d'aller partager une cellule. Et puis, de toute façon, j'ai rien à y foutre. J'avais déjà pas à faire ces 5 ans. Je fais pas. Voilà, là-dessus, je n'admettrai jamais l'inacceptable. Qui me butent s'ils ont envie, mais quoi qu'il en soit, jamais je n'accepterai de reconnaître une culpabilité qui n'est pas la mienne. En attendant, je sais une chose, que c'est résistant quand je parle de mes grands-pères et puis des générations comme la tienne ou autre. Tous les impôts que vous avez payés, ça va dans les salaires de ces enfoirés. Et ça, je peux pas je peux pas l'accepter, quoi. Je peux pas l'accepter. parce que moi j'ai 38 ans. Moi je dis à un procureur d'aller manger ses morts s'il faut, ça me coûte cher, mais je l'ai dit, ça me soulage. Et quand je suis à huis clos, je peux lui dire les choses comme elles sont. Mais un gamin de 20 ans, il a aucune chance. Et rien que savoir ça, ça me donne envie deux fois plus de lui dire les quatre vérités, quoi. Voilà. C'est très compliqué à expliquer tout ça en peu de temps.
Oui, oui, non, mais on en parle comme ça parce que je te dis, moi, je lirai dans d'autres émissions plusieurs de tes textes et ça va faire un rappel de et peut-être mieux faire comprendre ce que tu essayes de dire là. Mais je crois que c'est des choses qu'il faut que les auditeurs entendent parce que on a tous l'impression que, enfin, souvent, les gens ont l'impression que les gens qui se retrouvent en prison se retrouvent en prison pour des choses très délictueuses. Toi, ton histoire, au départ, c'est juste une histoire de permis de conduire, quoi.
Oui, bien sûr.
Et de fil en aiguille, ça t'a mené régulièrement en prison, on va dire.
Voilà.
Et pour une histoire toute bête au départ, quoi.
Il y en a d'autres, il y en a des bien pires. Hein. Je, franchement, si je galérais pas autant avec la censure, il y aurait beaucoup plus de choses racontées sur mon mur Facebook parce que j'ai un tas de potes qui sont dedans ou qui sont morts dedans. Et c'est l'État qui est criminel là-dedans, hein, ces histoires-là. Et puis il n'y a aucune chance de se retourner, les familles n'ont pas les moyens de se payer les avocats, de toute façon les avocats sont achetés par la fenêtre. Donc voilà, puisque on est à Radio Larzac, on n'est pas trop loin de la vallée du Rhône, comparé à la Moselle. Là-bas, il y en a un beau qui s'appelle Monsieur Fort, qui est le grand ami à Monsieur Besson, qui s'appelle Raquetteur de Racaille, Maître Fort. Je le dis cash, hein, il n'y a pas de problème. J'ai grandi avec ses clients, on a choisi chacun une route différente. Et c'est parce qu'on est amis on a grandi ensemble. Leur route, moi je sais pourquoi ils l'ont faite. Hein, s'il n'y avait pas de gens pour les inciter, ces jeunes, ils partiraient pas en sucette. Nous on sait que ce qu'on a fait quand on avait 20 ans, même pas 20 ans, que je raconte, 14 ans, on faisait des conneries, on avait un peu de cannabis, on attachait les portails de gendarmerie avec les chiennes, on leur jetait des œufs pourris parce qu'ils nous avaient menacés ou autre, mais ça s'arrêtait là, c'était du ton Camillo et Pépone, tu vois.
Ouais.
Mais au jour d'aujourd'hui, ce qu'on leur met entre les mains aux gamins, je veux dire, voilà quoi, ça leur fait des palmarès de chétan. C'est la folie. Voilà. Des hommes assermentés comme ça, des gens qui ont plein de diplômes, il n'y a aucune pitié à avoir avec eux, je suis désolé. Je suis désolé quand tu vois Guérini qui est le pote au patron de la DCRI, qui est le patron à Sarkozy. Moi, tu vois, je vais te dire franchement, quitte à fracasser l'audience, c'est-à-dire dans le mauvais sens, moi, Mera, je mets ma tête à couper sur le champ qu'il est innocent. Tête à couper sur le champ qu'il est innocent. Ça, c'est clair. Donc voilà, quand on voit des patrons, parce qu'à un moment donné, il faut quand même ceux qui sont pas dans le même camp que nous, c'est-à-dire pas entre le repris de justice et le policier, quand tu vois le patron du GIGN, quand tu vois comment il travaillait à l'époque, quand tu vois l'affaire de Marignane, quand tu vois aujourd'hui, ces gens-là ont été mis sur la touche, quand tu vois ce qui... Mais c'est normal qu'ils montent au créneau, qu'ils se mettent en colère. Donc voilà, ils viennent rapporter la vérité. Donc maintenant, les gens, il faudrait qu'ils se réveillent un petit peu plutôt que d'aller encore plus à droite. Là, chez une pute qui fera jamais 18% dans mon pays, c'est pas vrai, ça, c'est un mensonge total. Hein. On l'a déjà au pouvoir, ce phénomène-là, avec des guéants et et bien d'autres. La Cortefeu, avec tous ces gens-là, c'est... Voilà, on n'a pas... Pour que le peuple se libère, il faut déjà que ces gens-là soient condamnés. Et des témoins, il y en a. Faut pas attendre qu'on les fume tous. C'est ça le problème. Donc c'est vrai que je donne peut-être des noms, j'affirme peut-être des choses. On va me dire, ouais, t'as des preuves. Ben, donnez-moi le temps et les moyens de vous fournir ce qu'il y a à fournir, et après on fait les calculs ensemble. Pas de problème. J'assume.
Stéphane, je vais te dire un grand merci.
Mais c'est moi. moi qui te remercie.
Alors, je te préviendrai quand cette émission va passer. Hein. Je te donnerai l'adresse où tu pourras la télécharger et tout. Et puis je te dis, je vais faire, je sais pas encore combien d'émissions avec tes textes, mais il y en a un certain nombre qui seront enregistrés, je te le promets.
Ça marche.
Je te souhaite une très belle journée et puis plein de chance pour la suite de ta vie.
Idem à tout le monde, et puis pardon aux auditeurs que j'ai choqués. c'était avec beaucoup d'amour.
Un grand merci, Stéphane.
Allez,
au revoir.
Bonne journée. Au revoir.
Je fais du gauchisme à la mode, oui, j'ai lu ça dans un journal. C'est offensant, quoique banal, pourtant que la droite méthode. Si vous chantez la liberté, la justice, l'égalité, on vous traite de démagogue. Et dès que l'on vous catalogue, auteur dont il faut se méfier, de vous l'on écrit, c'est commode. Avec dédain, avec pitié, ce monsieur connaît son métier, il fait du gauchisme à la mode. Il fait du gauchisme à la mode. Je fais du gauchisme à la mode, mais que fait ce pouvoir d'argent qui prend souci des pauvres gens, mais juste en certaines périodes, quand pensionnés et retraités de quelques francs sont augmentés. Ce sont leurs voix que l'on racole, ils vont voter dans les écoles. 8 jours plus tard, l'immobilier brandissant les foudres du code, les expulse de leur quartier. Dressez constat, monsieur l'huissier, je fais du gauchisme à la mode. Je fais du gauchisme à la mode. Je fais du gauchisme à la mode, si quand je pense aux objecteurs, traités comme des malfaiteurs, mon cœur point ne s'en accommode. Et que dire des étudiants que l'on fait chômeurs et mendiants, bien avant qu'ils n'aient leur diplôme. Quant au prince de son royaume, à l'intérieur bien intégré, vais-je lui consacrer une ode. Quand il traque les immigrés, non mon prince, mille regrets, je fais du gauchisme à la mode. Je fais du gauchisme à la mode. Je fais du gauchisme à la mode, et l'on me dit manipulé, et l'on croit pouvoir révéler à quel parti je m'inféode. Allons messieurs, soyons sérieux, tout simplement j'ouvre les yeux. Je suis témoin de mon époque, le succès présent je m'en moque. L'histoire d'hier à nos jours fut écrite par des rhapsodes, des rimeurs et des troubadours. Le temps des cerises est bien court.
C'était du gauchisme à la mode.
C'était du gauchisme à la mode.
Eh bien, pour terminer cette émission, je vais vous lire un texte de Stéphane. Et c'est un texte qui a pour titre « La crêperie jaune ». La crêperie jaune, c'était en 97 à Nantes. J'avais rejoint mon ex-compagne dans cette ville que je ne connaissais pas. Nous n'étions pas encore ensemble, mais nous étions amis et avions décidé de vivre ce festival hip-hop annuel entre nous et de s'y rejoindre. Je venais de passer un an à faire des travaux avec mon oncle Luc, en famille, pour la création de leur ferme auberge dans la Drôme, et j'avais pris goût à l'authentisme culinaire. J'étais donc à Nantes depuis la veille, et j'ai visité cette ville et ses troquets. Je me suis retrouvé chez Marcel, un putain de supporter marseillais, jusqu'à ce que le barman me dise « Mais c'est son bar, à Marseille, de Saïs Rock !» chassé par un canari, j'ai continué ma visite jusqu'à me retrouver devant cette crêperie jaune. C'était son nom. Je pousse la porte, et l'odeur des crêpes de mamie finit par me convaincre de ma faim. Elle était là, devant ses pianos, à jouer une mélodie de casserole qui était le spectacle en salle. Oh, pas de serveur ni de serveuse. Elle gérait tout elle-même. Son âge, oh, Dieu seul le sait. Mais la résistance, sûr qu'elle pouvait en parler. Ah, comme on dit, je me suis rassasié, cassé le ventre, collé à la chaise, bref, aucune envie de quitter les lieux. Quand tout à coup, le loup. Ah, mais non, le loup, c'est moi, patate. Des jeunes étudiants plus vieux que moi sont entrés dans la crêperie et ont pris place autour de leur table. J'ai commandé mon café et je suis resté à les écouter. Ils étaient étudiants en droit et ils disaient tout de travers. Oh, certes, je connaissais rien à leur dialecte tribal de la balance, mais quand ils en venaient à l'humain de la chose, il y avait comme un hic, un discours d'une autre planète. Et chassant que la chose, c'était nous, ben, j'ai recommandé un deuxième café. Mamie me l'apporta. Et j'en profitais pour lui demander si je pouvais offrir le café à ces jeunes gens. Elle me répondit simplement « Oh, si t'as des sous achetés par la fenêtre, j'y vois pas d'objection, votre honneur. » Elle leur a servi le café qu'ils acceptèrent, étonnés, et je les rejoignais. « Excusez-moi, je me permets, car j'aimerais en savoir un peu plus sur vos études, vos choix de carrière, vos objectifs professionnels. Bref, n'est-ce pas ?» Ils avaient pour la plupart 2 ou 3 ans de plus que moi, mais qu'importe. Ce qui était rigolo, c'était que la mamie s'est mise à faire la vaisselle avec une douceur extrême, comme si son oreille avait remplacé la mienne. Et nous discutâmes jusqu'à la fin du dernier sucre. Une discussion pacifique et posée, sans animosité aucune, on n'a pas poté. Confirmation de ce que j'avais compris. Tous à droite. Pourquoi ? Ah bah, comme papa. Pourquoi ? Bah parce qu'il paye les études et que c'est un bon papa à la maison, alors qu'au boulot, c'est un vrai salaud. Mais bon. Quand on voit le mini Sarkozy dans Neuilly sa mère, un bon film qui divertit, et qu'on revient à la réalité, elle est où, hein, la frontière ? Qui est pire que l'autre ? Le rôle du film ou la réalité ? Bref, à ce moment-là, ils étaient inoffensifs encore, mais où sont-ils aujourd'hui ? Hein ? Dans quel palais ? Quelle vis couvre-t-ils ? Et pour quelle raison d'État ? Ah, j'allais oublier de préciser aussi, tous foutent Pasquin. Puis, ce fut l'heure de régler la note. Mémé, s'il te plaît, l'addition. Oh, laisse, fils, c'est pour moi. La mamie m'offrait les cafés que j'avais offerts. Et elle me dit aussi, si j'ai la chance de ne pas avoir 10 clients comme toi avant la fin de l'année, je devrais m'en sortir. Et tout ça avec un sourire. Voilà le souvenir de la crêperie jaune à Nantes, de cette mamie bretonne à l'ancienne, et que c'était que du bonheur. Aujourd'hui, 15 ans après, peut-on encore s'asseoir à leur table ? Eh bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui. La semaine prochaine, je vous lirai d'autres textes que Stéphane a écrits. Vous verrez, c'est des textes comme on n'en lit pas tous les jours et qui racontent des choses qu'on n'entend pas tous les jours. Voilà, en attendant, je vais dire un grand merci à Théo qui toutouillait les boutons derrière la vitre Et à vous, je dis comme d'habitude, à la prochaine fois, même endroit, même heure.